il y a toute une lignée de ces grands maîtres qui ont, nous font enseigner pour notre temps. Et en relation au fait que Israël quitte la clandestinité de l'exil et l'atomisation de l'exil et se dirige vers la restauration de l'identité hébraïque. D'ailleurs, le terme de Israélien ne se trouve d'abord que chez le Maharal. Le Maharal dit, pour parler du Ben Israël, dit Haïsraéli. Et vous voyez, encore une fois, le nombre de facteurs de coïncidence, c'était qu'une coïncidence. Et lorsqu'on lit le Maharal avant le temps de l'État d'Israël, Haïsraéli, ça voulait dire le membre du peuple d'Israël, on aurait pu dire le juif. Mais maintenant, on comprend que ça veut dire Haïsraéli, le membre de la nation d'Israël. Et c'est ainsi qu'il en parle. Alors ne me faites pas dire que j'aurais dit que le Maharal était sioniste. J'ai même pas à le dire, c'est vrai. Bon, je continue. Vezé chez Amar, à Harkar, et c'est ce que cette citation dit ensuite, Maelouch lo shamashkin, de même que ces trois breuvages, c'est-à-dire l'eau, le vin et le lait auquel la Torah est comparée, vous vous rappelez, en nishmarin ela bepachut shebekelim, ne se conserve que dans le vase le plus vil, je ne voudrais pas dire grossier, parce que là le mot ne serait pas à sa place. Hein? Et Beratzaloma, qui est l'eau mashkin, c'est clair, hein? Ça veut dire que le contenant de la Torah doit être comme ce vase qui ne risque pas de frelater la liqueur qu'il contient. Et alors plus le vase est simple, c'est-à-dire humble dans notre registre des vertus, plus le contenu est authentique parce que préservé. Il y a ici une image extraordinaire. Hein? Mais qui est l'oumashkin, ces breuvages-là, donnez-moi un autre mot que, je ne vais pas dire liquide, c'est boisson, oui, okay. Parce que breuvage, ça fait un peu beverie. Ashinu ibaem bekalut meod, l'altération arrive rapidement, facilement. Ce sont des liquides, enfin des, pardon, des boissons, comment dire, qui s'altèrent rapidement. Ou firar, tzarich lahem, les pachout shebekelim. Et c'est pourquoi ils nécessitent les vases les plus. Les moindres, c'est exact. Les plus. Non, oui, en français, les adjectifs. Non, tous ces adjectifs ne collent pas. Plus, à condition de donner au sens d'élémentaire son sens alchimique. Donc. Et d'ailleurs, les meilleurs vases sont faits avec l'élément terre. C'est une blague. Et alors, on continue. Kemo, keli heres. Voilà ce qu'il dit. Comme un pot de terre. Eno, poel, bamashke. Le pot de terre n'influence pas. Les meilleures marmites, d'ailleurs, pour le pot au feu, c'est des marmites de terre, comme vous le savez peut-être. Quand j'étais enfant, on en avait encore. Maintenant, c'est l'aluminium. Les machines au gazé. Ma en fond. Ah, il y en a déjà en fonte. Ah bon, on rajeunit. Mitzad apshitut, à cause de leur simplicité. C'est-à-dire, non, je crois que vous avez touché le mot exact. Hein? Étant donné qu'on arrive à l'élémentaire, on arrive au simple. Alors, il n'y a pas cette complexité des composants. Du contenant qui risque d'influencer le contenu. Donc, c'est clair. Avant la caisse et vazar, alors que l'argent et l'or, Meshane et Tamashke, transforment la boisson. Oui. Je voudrais vous donner une analogie, j'en ai parlé une fois, je ne sais plus si c'est ici ou dans un autre cours, il y a longtemps en tout cas. Une histoire chassidique, pas une histoire, un apologue chassidique. Qui me semble se relier tout à fait à cet enseignement et qui dit ceci quelle est la différence entre un homme orgueilleux parce qu'il est riche et un homme modeste? C'est que l'homme modeste, lorsqu'il est devant une vitre, la vitre est transparente, alors il regarde l'autre qu'il y a derrière, tandis que le riche se voit devant un miroir où il y a de l'argent derrière la vitre, alors il se voit lui. C'est très joli comme explication. Bon, c'est le rei, le miroir. Ah voilà, Kesevaza, Meshane est amashke. Vezeum ipene, Shena Kesevaza, Pashut. C'est parce que l'or et l'argent ne sont pas des substances simples. Kemoshe ou Pashut, Pashut Shebekelim. Comme le pot de terre est le plus simple des vases. Ulchach, Meshane est amashke. Et c'est pourquoi cela altère la boisson. Vekacha Torah, de même la Torah Gamken aussi. La Torah ne peut se tenir que chez celui qui est humble. Je crois qu'il y a là un enseignement très important qui vous permettra un diagnostic de l'authenticité d'un discours ou d'un texte qui parle de choses traditionnelles. Si on ressent cette simplicité de la modestie, alors on est à l'aise. Si on ressent le contraire, c'est que c'est de la philosophie. Même si l'objet sur lequel on se projette est un verset, un midrash, un livre du Sefer HaBahir, du Sefer HaZohar, enfin vous avez ça dans toutes les bibliothèques maintenant, oui, de quoi je veux parler. Voilà que le Maharal avait déjà prévu tout cela. Il était bien évident que si le Maharal nous donne tous ces détails, c'est qu'il a vécu ces problèmes. C'est bien évident. Et je voudrais vous raconter une histoire que j'ai racontée souvent, mais je ne sais pas ici. Au temps du Maharal, on commençait à apparaître les instituts d'hébreu laïques. Par exemple, ce qui est aujourd'hui, si vous voulez, les langues eaux, quand on fait l'hébreu. Quelle que soit la dignité des personnes qui s'en occupent, mais je veux dire, c'est la méthode. Le Maharal avait, chez les Mastilim, qui étaient les Mastilim, l'intelligentsia de ce temps avait des amis. Moi, j'étais professeur d'université, ou machou acher, peut-être parfois rabbin philosophe, j'en sais rien. Et alors, un de ses amis qu'il aimait beaucoup, avec qui ils étaient en controverse idéologique perpétuelle, il a posé une fois la question. Il dit, je ne comprends pas, vous les rabbins, vous connaissez l'hébreu. Nous, les professeurs d'hébreu, c'est un métier pour lui-même, et il faut passer des diplômes, et c'est difficile, et puis vous, vous occupez d'autre chose, de la Torah, et vous savez l'hébreu, comment vous faites? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère énorme de la question, mais ça renvoie à la vraie situation. Okay. Quand un professeur, je ne sais pas où c'était le nom, mais disons un traducteur universitaire, cite un enseignement rabbinique, et puis il dit, mais eux ne savaient pas l'hébreu, les rabbins. Okay. Donc, et alors, et ça arrive, je pourrais vous donner des noms, mais je ne le ferai pas. Le seul fait que je vous dis que je pourrais vous donner des noms, je sais que vous savez de qui je parle. Donc, je reviens en tout cas au problème. Alors le Maharal lui a dit, écoute, je vais te poser une question. Voilà, je vais te citer un verset de Eshet Ra'il. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire. Là, oui, je voulais une fois raconter, mais je le raconte pour ceux qui l'ont pas entendu. Le verset dit, Sadin, la femme vertueuse, Ken, qu'on lit le vendredi soir. Sadin asta vatimkor, vahagor natna la kenarani. Ça veut dire, elle tisse un drap et elle le vend, mais la ceinture, elle la donne au marchand. Kenarani ici, ça veut dire le marchand. Et alors, le professeur d'institut hébraïque, je sais pas ce que ça veut dire. Dis-moi toi ce que ça veut dire. C'est un verset difficile. Qu'est-ce que veut dire le verset? Elle tisse, genre un châle, un foulard, et elle le vend, mais la ceinture, elle la donne au marchand. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoute, je vais te raconter une histoire. Alors, il a raconté que c'est le temps où il y avait les premiers magasins à prise unique qui commençaient à se répandre. Et il a raconté dans une petite ville, il était en Bohème, il y avait un premier magasin à prix unique, et puis un juif, un villageois, d'un petit village, avait visité ça, il avait une idée géniale, comment gagner sa vie. Dans un magasin à prix unique, quand les gens avaient acheté ce qu'ils avaient acheté, ils passaient à la caisse, on leur donnait un sac, pour rien, pour mettre leurs marchandises. Alors il s'est dit, ici on vend des sacs pour rien, je vais acheter des sacs pour rien, et puis je vais me mettre dans mon village, vendeur de sacs pour quelque chose, et je vais gagner ma vie. Alors il rentre dans le magasin, il choisit tant de sacs comme ça, tant de sacs comme ça, comme ça. Il passe à la caisse, il dit, paye, ça fait tant. Il dit, comment, vous ne donnez pas des sacs pour rien? On lui dit, haram, si tu prends la marchandise, on te donne le sac. Si tu prends que le sac, paye. Alors c'est comme ça que le Maharal a expliqué au professeur d'hébreu. Il dit, si tu veux de la Torah, on te donne aussi l'hébreu. Tu veux que de l'hébreu, paye. Alors, c'est clair. Alors, c'est ça que dit le verset. Le foulard qu'elle a tissé, elle le vend. Mais la ceinture avec laquelle elle attache le ballot, elle le donne au ballot. J'ai compris que c'est.
C'est à peu près là. Il y a des endroits où on mélange les deux choses, alors.
C'est rare.
Il y a des endroits où on mélange les deux choses. On vend de la Torah et en même temps que l'enseignement de l'hébreu. Et...
Je ne sais pas pourquoi vous faites allusion à ça. Je pense que ce que j'ai dit, c'est très clair. En fait, c'est une parole qu'il a dit. Et il y a un verset qui dit que les Hochma vers Tinko achète la sagesse et ne la vend pas. Difficile. Si je dois l'acheter et que c'est interdit de la vendre, depuis je l'achète. Allez, je vais vous poser cette question pour demain matin. Réfléchissez. Quelle est Hochma vers Tinko? Et quelqu'un a la réponse?
Achète la Hochma. Pas toi.
C'est joli, mais à plus précis, achète la Chochma, mais ne la revends pas, donne-la. C'est ça que ça veut dire en chat, mais cette tenue, c'est solide.
Ne tire pas profit de ta sagesse.
Oui, on peut le dire comme ça, mais dans les termes du verset, tu dois. Affilou Bédermi nous dit le commentaire. La sagesse, tu ne peux pas t'en passer. Un homme sans sagesse, sans Chochma, c'est un homme. T'as Chochma, la dame d'art.
Mais ça
ne
peut pas être
vendre. Attendez, je vais dire. C'est-à-dire, même si. Pour l'acquérir, tu dois la payer, paye. Mais toi, ne la vends. Donc, un de mes maîtres, je crois que c'est M. Lorrain qui disait, la Torah est la seule chose qu'on peut donner en la gardant, en le gardant. Et plus que ça, il disait, plus on donne et plus on en a. Vous avez remarqué ça? C'est la force du chidouche, d'ailleurs. J'ai dit une fois à un des ministres des Finances en Israël, donnez une idée. Il a dit, c'est un pratiquant. Dit, et si vous demandiez des droits d'auteur sur la Bible, sur les traductions de la Bible, il n'y aurait plus de problème économique comme ça. Mais on y a droit. Il n'y a pas de prescription. Alors vous verriez, toute l'économie mondiale change. Mais c'est prévu, hein. Un jour, on payera les taxes. Ce sera de la taxation. Imaginez, le jour où ça arrive, et je crois que ça va arriver. Vous savez que le budget israélien, c'est une histoire de fil. Je me rappelle que quand la monnaie israélienne, c'était la lire, quand j'avais dit une fois, c'était juste, ouais, prends ta lire, il me donne un budget. C'est bien de fil. C'est vrai, l'histoire de fou. Mais je crois qu'on peut régler ça très facilement. Voilà. Une fois, l'ONU accepterait une proposition de Shimon Peres, je veux dire, le Kachimou Karavadi, Macham Shimitala, Arbena, c'est Kabel Peres. De dire, ben voilà, on va résoudre nos problèmes, nous payer tant par biblicité. Mais c'est pas cohérent, ça. Bon. Alors seulement, il y a écrit que Nehorma va être court.
Dato
Shefela,
parce que à la base
d'une
chose, comment précisément
Dato
Shefela,
voilà, Dato Shefela, ça veut dire que, il y a une Mishnah d'ailleurs qui l'a dit, peut-être pas moi plus loin dans le chat, ça veut dire ne dis jamais c'est mon opinion qui prévaut. Darti, ma manière de comprendre, c'est ça. Okay. L'expression c'est Dara Travekha, ok? C'est Dartho Shfela.
Shfela, c'est le sens de.
Shafel, humilié.
Bas.
Oui, Shafel, bas. Par exemple, quand on descend de Jérusalem à Tel Aviv, on descend dans la Shfela. Et quand on dit Shavuot Israël, je ne sais pas ce que je fais là. Bon, vous connaissez ces termes.
Une question, une petite difficulté que j'ai sur le vocabulaire. Parce qu'on a dit l'or est quelque chose de complexe, la terre est quelque chose de simple. Bon, pour un biologiste comme moi, ça pose problème, puisque la terre me semble être quelque chose de comprenant des centaines de composants et l'or un corps pur. Est-ce que tu pourrais expliquer?
Tu appelles ça la biologie, non, un peu. Parce que le moral, il me semble vouloir dire, c'est que la terre en question, c'est pas la terre, l'humus. C'est cette forme d'argile, cette sorte d'argile qui s'appelle Heres, avec laquelle on fait ce que j'appelle moi les pots de terre en français, mais je ne sais pas, il doit y avoir un terme plus Karmika, ça traduit céramique.
C'est la porcelaine.
Par exemple, le kaolin, voilà, vous voyez. Alors, il me semble qu'il y avait une petite tache de tasse de thé chinoise à Metsuya, là-bas. C'est d'une transparence de pureté absolue. Je pense que c'est du terreau.
Alors, je vais voir quelle heure il est.
Écoutez, il est maintenant presque l'heure. On a le temps pour une question, si vous voulez. Je crois que quelqu'un m'avait posé une question. Oui, merci, monsieur. Il est parti.
Une différence,
s'il
vous plaît, entre mystique et kabbaliste. C'est-à-dire que
les actes mystiques. Oui. Non, il y a des kabbalistes qui sont mystiques, par exemple, en Lumachia, qui n'est pas mystique. Le kabbaliste, c'est celui qui connaît le sens de fait de la prophétie à la manière dont les prophètes eux-mêmes le connaissaient. Voilà, je trouve ça vraiment, je suis. C'est-à-dire, celui qui connaît le sens hébreu des mots hébreux, alors que la tradition non kabbaliste comprend le sens des mots hébreux dans la signification des langues qui parlent chez les goïms. Par exemple, je sais pas, quand un juif français parle de la prière, eh bien, il ne traduit pas le mot de fila, il traduit un mot latin, et avec la signification que le mot de prière avait chez les romains. Okay. Un kabbaliste, lorsqu'il dit de fila, eh bien, il a en tête une connotation qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le mot de prière. Bon, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas dit qu'il faut pas aller à la prière, okay, mais aller à la tfila. Et c'est vrai de toutes les notions qu'il y a au niveau de la traduction de la Bible, quelle que soit la langue. Je vous dirais, j'ai toujours été frappé, je crois que j'en ai parlé une fois, s'il y a des linguistes parmi vous, vous pourrez peut-être nous aider à comprendre. J'ai été frappé par le fait des langues étrangères que je connais, que je connaisse, c'est pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin il y en a quelques-unes. Il me semble que les traductions des textes hébreux en anglais sont les meilleures. Un linguiste m'a donné une fois une explication, c'est que la langue anglaise en tant que langue nationale s'est formée sur les traductions de la Bible en anglais. Peut-être là il y a un lien. Mais j'ai toujours croyé par cela, une traduction en français, c'est quelque chose de difficulté insurmontable. Okay? Alors qu'en anglais, ça passe, c'est plus. C'est de terre latine. Okay?
Okay? Est-ce qu'en anglais, pour le premier jour, pour jour 1, Il dit jour 1 ou jour 1er? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que dans les Bibles orthodoxes russes où il y a marqué jour 1 en dehors des brutes.
Non,
tous les autres disent premier jour, deuxième jour, troisième jour.
Ils disent le soleil, le dimanche, c'est...
Dans les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent? Jour 1 ou premier jour?
Et comment ça se dit en anglais? Par contre, c'est le soleil.
Non, mais dans la traduction de la récit de
Shabbat.
Ah,
non, alors ça dis... va pas. La traduction des orthodoxes des.
Non, je vais dire jour 1. Ah, mais dire jour 1 ou jour 1er.
Oui, oui. Il y a
non,
pas les orthodoxes.
Jour 1, dans ma mémoire. Je vérifie. Je ne savais pas laquelle des traductions en anglais est la plus bonne. Comment dire, au. Comment on appelle ça en français, ça m'échappe. Rigole biblique du matin. Non, pas de la santé, le concours biblique international à Jérusalem, mais à Ouistre. Il y a beaucoup de non-juifs qui ont dit le concours, et le jury demande de quelle traduction anglaise vous servez. C'est pas toujours pas mieux. Oui.
Qu'appelle-t-on le monde à venir?
Là, vous m'avez posé la question, écoutez, nous ne sommes pas encore arrivés. Ça va venir. On peut encore arriver à ce sujet, mais j'espère qu'on y arrivera dans la semaine. Vous me rappellerez aujourd'hui. Ok, encore une question, M. Fabien.
Comment vous expliquez l'ambiguïté de la traduction de Geshem, qui veut dire à la fois la pluie, c'est-à-dire l'eau, et en même temps la matérialité?
Très bien. C'est-à-dire la matérialisation de ce d'où vient la matière commence par l'eau, par la pluie. Oui. Rappelez-vous le verset basé, vous verrez, après les crimes, on a fait un peu d'armaïm. Alors, comme je n'ai pas le temps maintenant, j'ai pas le temps, s'il y a du temps plus tard, on reprendra cette question. D'autant plus que c'est très relié à notre sujet. Parce que, je vous dis très rapidement, maïm est un mot hébreu qui apparemment n'a pas de singulier. Or, s'il y avait un singulier, ce serait ma. Okay? Comme en arabe, l'eau se dit le ma. et en hébreu c'est au pluriel. Or ma, c'est ce mot qui a été indiqué par le Maharal pour désigner la vertu d'humilité. Et dans la comparaison avec la Torah et l'eau qui va là où il y a le ma. Vous avez compris pourquoi c'est lié, ok? Enfin, alors on se revoit demain. Ce soir c'est la conférence de la Bernheim. Et je pense que ça sera très intéressant des sujets.